Bonjour, le secrétaire général va commencer avec quelques commentaires et passera aux questions. Bonjour, mesdames et messieurs. Bien entendu, vous suivez les nouvelles de la Libye avec grande attention, tout comme moi. Mais ce que nous pouvons dire maintenant est très limité. Très limité. Nous étudions l'évolution de la situation de très près et avec une certaine préoccupation, une certaine inquiétude. Il est important que la situation soit tirée au clair le plus vite possible. Et si les choses se confirment, que le Premier ministre Zaïdan ait été enlevé, j'appelle ou je lance un appel pour qu'il soit relâché le plus vite possible, car l'état de droit et la stabilité sont indispensables. Maintenant, pour les questions à l'OTAN, l'année prochaine, les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se réuniront au Royaume-Uni. Donc, je me réjouis vivement de l'offre faite par le Royaume-Uni d'accueillir ce sommet, offre qui a été favorablement reçue par les Alliés. Cette rencontre sera l'occasion idéale pour faire le point de nos activités en Afghanistan et de nous tourner vers l'avenir, car 2014 sera un tournant, car nous terminerons la plus longue et la plus vaste opération de l'OTAN. Et lors de notre dernier sommet à Chicago, nous avions décidé qu'une étape décisive serait franchie dès cette année avec la prise en charge par les forces afghanes de la direction des opérations dans tout le pays. Et en juin, je me suis rendu à Kaboul pour marquer ce moment important. Depuis, nous avons pu constater la résilience et le professionnalisme croissant des forces afghanes. Et d'ici la fin 2014, l'armée et la police afghanes seront pleinement responsables de la sécurité de leur pays. Grâce aux efforts immenses et aux nobles sacrifices des soldats et des civils des pays contribuant à la FIAS, l'Afghanistan a fait du chemin, et un chemin considérable depuis ces 10 dernières années. Les changements sont remarquables. Notre investissement en moyens et en vie humaine a été sans précédent. Personne ne peut le nier. Et ces efforts doivent être respectés. L'Afghanistan se prépare maintenant à la tenue d'élections présidentielles, élection qui sera entièrement dirigée et gérée par les Afghans. L'enregistrement des candidats vient de se terminer. Les différents tickets présidentiels sont multiethniques. Les femmes sont bien représentées à tout niveau, que ce soit comme électrices, pour participer à l'organisation de l'élection ou pour être candidate. Il y a au moins une femme qui se présente dans chaque conseil provincial comme candidate. Et 6 mois avant le scrutin, les préparatifs sont plus avancés que pour toute autre élection dans l'histoire moderne de l'Afghanistan. Il est essentiel que ces élections soient transparentes, inclusives et crédibles. Et que les résultats soient acceptables pour la population afghane afin que le processus politique offre la certitude et la prévisibilité sur laquelle comptent les Afghans et la communauté internationale. Le sommet de l'OTAN l'année prochaine sera l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis par les forces afghanes pour se préparer à exercer ces responsabilités et de réaffirmer de notre engagement en faveur d'un partenariat durable avec l'Afghanistan, notamment en formant, en conseillant et en assistant les forces afghanes après 2014. Et nous pourrons saluer, comme je l'ai dit, les contributions et les sacrifices immenses de tant d'hommes et de femmes de tous les pays contribuant à la FIAS. Forte d'une expérience de plus de 20 ans passée en opération, nos forces sont aujourd'hui les plus performantes et les mieux interconnectées dans l'histoire de l'OTAN. Le sommet nous permettra de nous assurer que nous puissions valoriser les enseignements tirés. Nous pourrons renforcer l'alliance et faire en sorte qu'elle reste prête à relever les défis de sécurité moderne. Le sommet réaffirmera le lien transatlantique vital sur lequel l'OTAN a été fondée et le sommet renforcera encore nos partenariats qui sont la clé de nos succès futurs où les risques traversent les frontières et où nous sommes tous interconnectés. En préparant le sommet, nous aurons des informations plus complètes à vous communiquer sur chacun de ces aspects. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le dernier de ces points, à savoir les partenariats de l'OTAN. Et voici quelques exemples récents des résultats tangibles obtenus grâce aux partenariats. Les opérations, l'entraînement, les exercices, la réforme et la gestion des institutions de défense démocratique sont des exemples. Outre la bonne coopération entre l'OTAN et ses partenaires au Kosovo et en Afghanistan, nous continuons à intensifier nos actions avec les partenaires sur les théâtres opérationnels. Aujourd'hui, par exemple, une frégate ukrainienne rejoint l'opération Ocean Shield dans la lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique. Et c'est la première fois qu'un pays partenaire se joint à cette importante mission. Et je me félicite vivement de l'engagement de l'Ukraine, car en travaillant ensemble, l'OTAN et ses partenaires apportent une réelle contribution à la lutte contre les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la sécurité dans la zone euro-atlantique et hors de la zone euro-atlantique. Et récemment, les membres de l'OTAN ont accepté l'offre de la République de Moldova de se rejoindre à notre mission au Kosovo. Et c'est la première fois que la République de Moldova aura contribué à une opération dirigée par l'OTAN. La semaine dernière, les pays membres et les partenaires du sud-est de l'Europe se sont retrouvés pour travailler ensemble sur une initiative OTAN qui vise à améliorer la gouvernance et le contrôle démocratique dans le secteur de la défense. L'OTAN possède une immense expérience en matière dans ce domaine. On améliore l'efficacité, on améliore le fonctionnement des institutions de défense et on enracine les normes démocratiques. Nous avons également accumulé une immense expérience en matière de collaboration avec nos partenaires. Et à ce moment même, l'Autriche, un de nos partenaires, co-dirige le projet de l'OTAN sur le soutien au système de formation de défense d'un autre pays partenaire, à savoir la Serbie. S'agissant de l'avenir, notre coopération avec les partenaires va encore se renforcer. Le mois prochain, l'OTAN organisera en Pologne et dans les États baltes, un exercice de grande envergure que l'on appelle Steadfast Jazz. L'objectif de l'exercice est de s'assurer que notre force de réaction rapide, la force de réaction de l'OTAN, soit prête à défendre n'importe quel allié, à se déployer à n'importe où et à faire face à n'importe quelle menace. Deux partenaires de l'OTAN, l'Ukraine et la Finlande, ont proposé de participer à cet exercice, offre qui a été acceptée par les alliés. D'autres sont déclarés intéressés par une participation. Ces pays vont donc s'entraîner à nos côtés, après quoi ils répondront aux conditions nécessaires pour pouvoir se déployer au sein de la force de réaction de l'OTAN de l'année prochaine. Un autre partenaire, la Géorgie, a proposé de rejoindre la force de réaction dans le futur, offre qui a été acceptée. Je pourrais dire que les troupes géorgiennes seront mises à la disposition de la force dès 2015. À nouveau, ce sera une première. La première fois que la Géorgie fera partie de l'équipe de réaction rapide de l'OTAN. Tout ceci montre que nos partenaires, dès à présent, prennent de nombreuses formes, que les partenaires engrangent d'ores et déjà des résultats. L'année prochaine sera marquée par plusieurs anniversaires importants. Le partenariat pour la paix aura 20 ans, partenariat qui a été fondé pour renforcer la sécurité et la coopération dans l'ensemble de la zone euro-atlantique. 20 ans se sont également écoulés depuis le lancement du dialogue méditerranéen. Et cela fera 10 ans que nous aurons lancé l'initiative de coopération d'Istanbul, c'est-à-dire initiative qui marque l'ouverture aux pays de la région du Golfe. Et toutes ces initiatives ont porté leurs fruits. Mais les partenariats peuvent faire plus. C'est pourquoi j'espère que le prochain sommet nous permettra de passer à une étape suivante pour que nous puissions instaurer une coopération plus poussée avec les partenaires dans le cadre d'opérations, d'exercices et dans le contexte de réforme du renforcement des institutions de sécurité démocratique, responsables et transparentes, pour qu'ensemble nous puissions tous œuvrer à la construction de la sécurité future. Et avec cela, je suis prêt à répondre à vos questions. Reuters.
Merci. Pourrais-je vous demander quelle est votre réaction à l'interview de Karzai, du président Karzai à la BBC, pendant laquelle il a dit que tout cet exercice a été la source de beaucoup de souffrance pour les Afghans et qu'il n'y avait absolument aucun gain après cette opération puisque le pays n'est toujours pas en sécurité. Réponse. Quand on se penche sur l'évolution des choses en Afghanistan, les progrès accomplis sont remarquables, au contraire, des progrès ont été remarquables et on ne peut pas le nier. Et à chaque fois que je rencontre des Afghans, ils expriment toute leur reconnaissance, se félicitant de notre présence et de tout ce qu'on a pu accomplir sur place. Nous avons beaucoup fait pour aller dans le sens d'assurer la souveraineté de l'État afghan. Et en même temps, nous avons constitué une force de sécurité afghane très forte, 350 000 à peu près maintenant, dans le but de veiller à ce que les Afghans soient à même d'assumer la responsabilité de la sécurité de leur pays d'ici la fin de 2014. Et c'est en bonne voie. J'ai toute confiance. Les forces de sécurité afghanes vont pouvoir assumer cette responsabilité à la fin de l'année 2014 comme prévu. Nous avons beaucoup sacrifié en moyens, en sang, pour arriver à apporter de l'aide aux Afghans et je note avec satisfaction que les Afghans que je peux rencontrer expriment leur appréciation. Monsieur le secrétaire général, la situation en Syrie qui évolue, quelle est votre réaction après le début de la destruction de l'arsenal syrien d'armes chimiques? Tout d'abord, je me félicite de l'adoption d'une résolution de l'ONU qui crée un cadre général pour l'élimination, la neutralisation, l'élimination, destruction des armes chimiques syriennes. C'est un très grand pas en avant. Et j'encourage fortement les autorités syriennes et les autres parties intéressées de faire tout leur possible pour aider les Nations Unies et l'OIAC d'accomplir cette tâche très importante qui est d'assurer l'élimination de toutes les armes chimiques en Syrie et selon le calendrier qui a été établi dans cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela étant dit, ce qui nous préoccupe encore, c'est de voir que les combats se poursuivent en Syrie. Bien entendu, il est inquiétant de voir que plus de 100 000 personnes ont pu perdre la vie en Syrie. Et je fais appel à toutes les parties en présence d'arrêter ces meurtres, d'arrêter la violence et engager un processus politique pouvant aller vers un règlement politique. Il n'y a pas de solution militaire. On a besoin d'une solution politique. Et j'espère qu'il sera possible d'organiser une conférence internationale dès le mois prochain qui pourra ouvrir un chemin, je l'espère, vers une solution durable. Question. Le gouvernement libyen a demandé à l'OTAN de l'aider à renforcer ses structures de sécurité. L'OTAN se penche sur cette problématique. Est-ce que vous pensez qu'il fallait réagir peut-être plus rapidement quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui? Et deuxièmement, je vois que la mission de l'ONU ont dû réduire leur effectif. Est-ce que ces fermetures et ces réductions d'effectifs au niveau de l'ONU vont avoir un impact sur les contributions américaines à l'OTAN? Sur la Libye, d'abord, je peux confirmer que les autorités libyennes ont en effet demandé de l'aide à l'OTAN pour reconstruire ou pour réformer le secteur de la sécurité. Nous explorons les différentes possibilités en la matière depuis un certain temps et nous étudions encore ce dossier. Vous me demandez si il ne fallait pas agir plus rapidement. Eh bien, je vous rappelle que la Libye est un État souverain et indépendant. Et il est clair qu'il incombe aux autorités libyennes elles-mêmes de décider si oui ou non elles estiment avoir besoin d'une aide extérieure, si elles veulent une aide extérieure pour constituer un secteur crédible de sécurité dans le pays. Bien sûr, des problèmes subsistent en Libye lorsqu'il s'agit de la sécurité du pays. Mais en même temps, il incombe, encore une fois, aux autorités libyennes de demander, de nous faire parvenir des demandes d'assistance éventuelles. Nous avons dit d'emblée aux autorités libyennes que nous sommes prêts et tout à fait disposés à apporter de l'aide si le pays nous le demande. Et nous avons reçu une demande des autorités libyennes au mois de mai de cette année. Et nous avons réagi très rapidement à cette demande. Car peu après, une équipe d'experts a été envoyée à Tripoli, chargée d'approfondir ce besoin, cette demande, et nous sommes en train de réfléchir sur cette demande. Bien sûr, il faut tenir compte en même temps des développements les plus récents en répondant à cette demande, mais je pense que tout le monde le voit bien. Il faut faire quelque chose pour veiller à la stabilité en Libye. Mais je dois souligner que nous avons agi très rapidement, tout de suite après avoir reçu la demande libyenne. Mais encore une fois, c'est aux Libyens de décider s'ils souhaitent recevoir une aide extérieure. Lorsque nous avons reçu une demande d'aide, nous avons agi rapidement. Oui, la fermeture, quasi-fermeture du secteur public aux États-Unis. Bien. Alors, je dois souligner que je ne vais en rien m'immiscer dans la discussion intérieure des États-Unis, ni ailleurs, d'ailleurs. Mais, cela dit, je note avec satisfaction que il semblerait que les forces armées américaines en sortent plus ou moins indemnes de cette fermeture. Et jusqu'ici, nous n'avons vu aucun impact négatif sur les contributions américaines aux opérations dirigées par l'OTAN.
Head of the EU Eastern Partnership.
Avant le sommet de partenariat entre l'Europe de l'Est et l'Union européenne, il y a beaucoup de pression sur l'Ukraine, par exemple. Mais dans le contexte de l'OTAN, comment concevez-vous la position de l'Ukraine lorsqu'hier, on entend un message disant que l'Ukraine dit « Nous sommes des Européens, on ne peut pas revenir en arrière ». Est-ce que vous voyez l'Ukraine comme futur membre de l'Alliance? Tout d'abord, le principe essentiel pour nous est le respect entier pour le droit de chaque pays de choisir ses partenaires et ses alliances en toute liberté. Vous vous souviendrez qu'en 2008, une décision importante a été prise, car à Bucarest, lors du sommet, en 2008, nous avons déclaré que l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN, si l'Ukraine le souhaite et si toutes les conditions sont réunies. Depuis, la nouvelle équipe dirigeante en Ukraine a déclaré que l'Ukraine poursuit une politique non-bloc lorsqu'il s'agit de la politique de sécurité et la politique étrangère, ce que nous respectons pleinement. Mais l'Ukraine a également dit qu'elle souhaitait poursuivre son partenariat avec l'OTAN dans le cadre de la Commission OTAN-Ukraine. En outre, comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, l'Ukraine a décidé de contribuer à l'opération Ocean Shield pour la première fois. Et dans de nombreux domaines, nous avons vu des contributions ukrainiennes aux opérations de l'OTAN et une contribution ukrainienne à la force de réaction de l'OTAN, la NRF. Par conséquent, il s'agit d'un partenaire très actif de l'OTAN, dont nous nous félicitons. J'ai eu une réunion avec le président Yanukovych récemment et il a réaffirmé l'intérêt de l'Ukraine, l'intérêt pour le partenariat qui doit se poursuivre et même s'intensifier. Et pour conclure sur ce point, je dirais que cela ne fait aucun doute. L'avenir de l'Ukraine reste dans le domaine de la coopération euro et européenne et nous espérons que la porte restera ouverte pour des relations encore plus étroites entre l'Ukraine et l'Union européenne et l'OTAN. J'aimerais bien savoir quelle est votre réaction quant à l'enlèvement du Premier ministre libyen. Comme je l'ai dit dans mon introduction, ce que nous pouvons dire à ce stade-ci est très limité. Mais si l'enlèvement du Premier ministre Zaïdan est confirmé, je demande instamment qu'on le relâche, car il est indispensable que la stabilité et que l'état de droit soient pleinement respectés en Libye. James? Oui, à nouveau pour la Libye. Bon, abstraction faite de l'enlèvement. Quand vous dites qu'il faut prendre en considération l'évolution récente de la situation en Libye, est-ce que cela veut dire que vous devrez refléter ces changements dans votre proposition, votre offre d'aide à la Libye, ou bien s'agit-il de la volonté de l'OTAN d'aider la Libye? Je ne sais pas quelle est la situation. Vous avez fait une offre. Attendez-vous une réponse de la Libye, ou est-ce qu'il s'agit d'interlocuteurs dont vous n'êtes pas très sûr? Eh bien, la situation est claire. Nous avons envoyé notre équipe d'experts à Tripoli. Maintenant, nous réfléchissons, nous analysons cette demande pour savoir dans quelle mesure nous pourrions aider avec la plus-value qu'est la plus-value de l'OTAN. Et à ce titre, nous devons assurer une coordination avec d'autres acteurs. Ils sont nombreux en Libye, les acteurs et des organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne. Il ne faut pas doubler les efforts et avoir un gaspillage de ressources. Il ne s'agit nullement d'avoir des doubles emplois, car l'OTAN doit pouvoir ajouter son utilité, sa spécificité. Je parle toujours de la situation sécuritaire. Oui, quand je parle de l'évolution ou développement récent, il s'agit de voir comment la situation sécuritaire se répercute sur notre possibilité d'aide. AFP. La décision turque d'acheter un système de missiles auprès d'une société chinoise, est-ce source de préoccupation pour vous et avez-vous été en contact avec Ankara à ce sujet? Tout d'abord, permettez-moi de souligner qu'il s'agit d'une décision nationale. L'acquisition de matériel militaire est une prérogative nationale. C'est un principe essentiel pour nous. Ce sont toujours des décisions nationales. Mais il est indispensable dans une alliance d'avoir une interopérabilité entre les forces et les équipements militaires des différents pays. Et je suis confiant que les autorités turques connaissent bien la situation. J'ai pris note de la déclaration par le président de la Turquie qu'aucune décision finale ni définitive n'a encore été prise. Concernant les consultations, je dirais ceci. Au sein d'une alliance comme l'OTAN, nous avons des consultations en permanence avec tous les alliés et entre tous les alliés. Merci beaucoup et on se reverra en ministériel.